Nous allons lire ensemble dans Genèse 39. Genèse 39, les 6 premiers versets tout d'abord. Genèse 39, un extrait de l'histoire de Joseph. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donner de la réussite à ce qu'il faisait. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, Luc chapitre 16, une parabole, Luc chapitre 16, la parabole du gérant malhonnête. Je lis au verset premier, Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« 100 mesures de blé, répondit-il. » Et lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Priorité, équilibre dans la vie professionnelle. Nous avons donc commencé hier soir à creuser des questions beaucoup plus pratiques après un certain nombre de généralités qui étaient importantes pour que nous réussissions à nous situer nous-mêmes face à ce mot « travail » et aux enseignements que les Écritures nous donnent sur un plan général. Alors je le redis, cela nous a été dit tout à l'heure, le premier travail que Dieu attend de l'homme qui veut bien travailler, c'est de le connaître comme sauveur. Jésus l'a dit clairement, Jean 6, versets 27 à 29. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure, la dimension éternelle. Et puis nous avons aussitôt évoqué le second travail que Dieu attend du croyant qui veut bien travailler, c'était une dominante hier soir, le connaître comme Seigneur. Pour que le travail ait sa juste place, Jésus-Christ doit avoir la première place. Et nous aurions pu passer notre soirée à développer tout ce que peut signifier la seigneurie de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Servez Christ le Seigneur. Nous nous souvenons de cette exhortation forte qui se situe au cœur même de l'enseignement de Jésus sur les rapports ouvrier-patron, patron-ouvrier, dans le cadre de la vie professionnelle de Colossiens chapitre 3. Et c'est dans cette mesure où Christ devient Seigneur que l'optique du travail va véritablement changer. Le travail n'est plus une fin en soi, un remplissage de l'existence, un boulet à traîner. Et je pense à ces deux extraits d'un ouvrage intitulé « Aspects de l'éthique sociale chrétienne » dans lequel l'auteur écrira ceci: « Le christianisme a sans aucun doute redonné la dignité aux métiers et aux activités sous-estimées. Le monde du travail quotidien n'était plus simplement une routine pour tuer le temps, un moyen monotone de subsistance, dépourvu d'un sens plus profond et chargé d'incertitude. Il était désormais considéré comme un domaine désigné par Dieu, où l'homme, en tant que travailleur, a reçu l'ordre de glorifier Dieu et de servir son prochain en son nom, même au travers des membres fatigués de l'esclave au plus bas de l'échelle, l'Évangile a envoyé une vague de gloire. » Et évoquant Martin Luther, qui a redonné ses lettres de noblesse au travail par certains ouvrages, notamment, il écrira, Luther a redonné au travail de l'homme la musique que la chrétienté avait mise au commencement dans le cœur de l'ouvrier. Les pêcheurs anglais et les moissonneurs russes se mettaient à chanter alors qu'ils travaillaient. Dans un état des États-Unis, un dicton affirmait que même les vaches sentaient la différence quand un fermier se convertissait. C'est bien, il existe un lait, semble-t-il, sanctifié. Répercussion de cette double priorité, ça c'est ce que nous avons évoqué tout à fait à la fin de notre étude. Premièrement, annoncer le Christ sauveur là où Dieu m'a placé. Nous avons entendu hier soir que aujourd'hui ça ne va pas sans problème dans certaines situations, nous y reviendrons. Et deuxièmement, vivre et annoncer le Christ Seigneur par l'exercice consciencieux de mon métier au milieu de mes collègues, en me souvenant que le mot « métier » vient d'un mot latin « ministerium » qui veut dire « service ». Le métier vu sous l'angle de Dieu est un service. Il correspond en réalité au prolongement d'une vocation. Dieu veut visiter mes collègues de travail. Dieu veut visiter mes collègues de travail. Et vous vous souvenez que nous nous étions arrêtés sur une citation importante qui démarrait comme ceci: il n'y a pas d'activité plus sainte que d'autres. Et cela nous avait conduit à répondre à une des questions qui figurait dans la boîte aux questions, puisque nous avons choisi cette stratégie qui consiste à insérer les réponses à un certain nombre de questions que nous avons relevées dans la boîte, à les insérer dans le cours de notre enseignement. C'est ce que nous allons encore faire ce soir, et en tout cas demain soir également. Et nous avons donc quand même posé la question face à cette affirmation « il n'y a pas d'activité plus sainte que d'autres », est-ce totalement vrai ? Et la question qui était posée, y a-t-il des métiers ou secteurs d'activité à déconseiller ? Et nous avons clairement dit que, effectivement, plus nous nous éloignons du christianisme qui a été le privilège de nos pays, d'Europe en particulier, plus nous nous trouvons dans des situations où le disciple de Jésus-Christ ne peut plus s'engager sur certaines avenues d'activité, parce que en elles-mêmes, ces activités sont destructrices, sont anti-Dieu, et ne peuvent pas permettre au disciple de Jésus-Christ d'exprimer dans sa vie, dans son témoignage, la seigneurie de Jésus-Christ. Et je pense que chacun d'entre nous peut réfléchir, creuser la chose. Nous avions dans la soirée un entretien, là où je loge, justement, pour évoquer les problèmes que posent un certain nombre de métiers, précisément parce qu'ils sont des métiers directement destructeurs. J'ai là, sous les yeux, un autre texte très intéressant qui dit « Ceux qui sont appelés par Dieu à exercer un métier doivent l'exercer en témoin de Jésus-Christ, évitant tout relâchement dans leur travail ainsi que tout excès, comme cela se produit parfois chez des hommes qui font de leur travail une véritable idole. » Nous l'avons vu. Les chrétiens sont des héros du maître de l'histoire dans leur métier. Ils ont la responsabilité toute particulière de le faire connaître à leurs compagnons de travail. Et là, je pense à un texte prophétique de l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, qui est très intéressant. C'est un texte qui n'est pas encore réalisé, selon ce que je comprends du texte prophétique de l'Ancien Testament, au sujet d'Israël en particulier, Zacharie 14, un très beau texte. Zacharie chapitre 14, dans les versets 20 et 21, Zacharie 14, 20 et 21, « En ce jour-là, il est devant nous, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » Clochette des chevaux portant l'inscription « Sainteté à l'Éternel », chaudière dans la maison de l'Éternel, consacrée à l'Éternel des armées. Et un commentateur de ce texte, un commentateur remarquable dans ce qu'il nous transmet de la part de Dieu, souligne ici l'importance de l'abolition de la distinction entre le sacré et le profane. Et il ajoute, il y a des gens qui ressemblent à des bateaux, qui sont construits avec des compartiments étanches. Toute leur vie religieuse est soigneusement séparée des intérêts et occupations ordinaires de leur existence. Par exemple, ils assistent fidèlement au culte le dimanche, mais seraient horrifiés de vous entendre mentionner le nom de Dieu dans leur salon ou à table. Ils vont même parfois jusqu'à jeter à leur hôte un regard de reproche, comme pour dire « il y a un lieu et un temps pour tout, mais ailleurs et pas maintenant ». Pour cela, sainteté à l'Éternel convient bien aux grands prêtres et aux sanctuaires, mais n'a rien à faire avec les cloches des chevaux ou la vaisselle domestique. Un valet d'écurie ou une servante au travail n'ont évidemment pas le droit d'utiliser une appellation aussi vénérable. Un valet d'écurie, une servante au travail, un automobiliste, n'est-ce pas, les clochettes des chevaux, manifestement aujourd'hui c'est le coin-coin de la voiture. Il y a des chauffeurs de taxi, même dans l'église de Jésus-Christ, il y a des métiers dans lesquels on roule beaucoup. Et il est évident que sainteté à l'Éternel doit correspondre à une manière de se conduire et de conduire. Puis il y a les chaudières qui pourraient évoquer les cocottes minutes qui permettent de préparer de bons repas. Et cela me conduit aussi brièvement à souligner qu'il est important de vivre et d'annoncer le Christ Seigneur en étant à ma place, c'est-à-dire à la place où Dieu me veut. Et là, je parle pour ceux d'entre nous qui sont concernés plus directement, en tant que femme. Je ne peux pas traiter de cette question de la vie professionnelle sans répondre à une question qui aurait pu être dans la boîte aux questions et qui concerne donc la vie professionnelle de la femme. Célibataire, jeune mariée, mère de un enfant, deux enfants, trois enfants, voire plus. Tout ce qui concerne la préparation de son avenir en tant que femme, lorsqu'elle est dans la période de sa vie où elle étudie, dans quelle perspective se prépare-t-elle à son avenir? Est-ce qu'elle considère que Jésus-Christ est Seigneur aussi? Dans ce domaine, tout ça est important. Et pour vivre et annoncer le Christ Seigneur en étant à la place où Dieu me veut en tant que femme, il faut tout d'abord que je me pose une question. Je me la pose personnellement en tant qu'homme, mais la femme doit se poser la question en tant que femme. Où est ma vocation? Parce que la femme a reçu vocation aussi. Et la vocation de la femme, manifestement, est une vocation différente de celle de l'homme à bien des égards et une vocation complémentaire à celle de l'homme. Ils sont faits pour se compléter. Il y a égalité de nature, égalité d'essence, égalité devant Dieu, mais il y a fonctions différentes, complémentaires, liées à des vocations différentes. Et ça, c'est quelque chose dont vous savez qu'on l'a totalement gommé dans le monde d'aujourd'hui. Et là où je suis très inquiet, c'est de voir que dans l'Église de Jésus-Christ, nous commençons à accepter facilement les nouveaux schémas de vie qui sont majoritaires dans notre pays, pour ne parler que de notre pays, en pensant qu'ils sont normaux. Vous savez, c'est ainsi qu'un jour, des croyants peuvent accepter l'avortement comme quelque chose de normal. C'est aussi comme cela qu'un jour, des croyants peuvent accepter l'homosexualité comme chose normale. à partir du moment où quelque chose est fait par une majorité dans un pays, il arrive un moment où si le disciple de Jésus-Christ n'y prend pas garde, il pense qu'après tout c'est normal. Et il finit par ne même plus s'interroger et par ne plus interroger les Écritures pour savoir ce que Dieu pense. Et c'est pour cela que nous devons parler de la chose ce soir. Et que personne ne vienne me dire que c'est parce que je suis encore jeune, mais quinquagénaire, que je fais vieux jeu. Parce que je m'appuie sur les Écritures. C'est donc avec Dieu que nous devons nous débrouiller si nous ne sommes pas d'accord. Et pas avec des arguments subjectifs en disant oui, il vit à une autre époque. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Et je demande à Dieu de me faire la grâce, s'il me prête vie encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, je préférerais qu'il revienne. Le Seigneur, je l'attends. Mais je lui demande la grâce de ne pas annoncer un autre message que celui que j'annonce depuis maintenant une trentaine d'années. Parce que c'est le message des Écritures et que nous ne sommes pas des girouettes. Alors, je conçois que nous vivions des temps difficiles, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous subissions beaucoup de pression dans ce domaine, que nous soyons parfois déconsidérés, mal vus, que nous nous demandions parfois qui a raison précisément parce que nous sommes de plus en plus marginalisés. Ça, je peux le comprendre. Et c'est pour cela que je ne voudrais pas parler ce soir avec un esprit de jugement, avec dureté, mais simplement quand même proclamer de manière très claire ce message de Dieu qui n'a pas changé, qui est pour l'homme de tous les temps, quelles que soient les cultures, quels que soient les environnements dans lesquels nous pouvons être placés, quelles que soient les époques. Alors, je pose la question, voilà les questions que je devrais me poser en tant que femme. Tout d'abord, nous l'avons dit, quelle est ma vocation en tant que femme? Qu'est-ce que la Bible dit de la vocation féminine? Où se situe en priorité ma sphère de service en tant que femme qui veut proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ? Et si je veux bien répondre à cette question, je dois répondre à une multitude de questions extrêmement pratiques. Je vous en cite quelques-unes. Par qui seront élevés nos enfants? Par qui seront élevés nos enfants? Par la femme du voisin? Par les nourrices? Les gardiens et gardiennes de crèche? Et quantité d'autres personnes qui n'ont plus de valeur chrétienne. Attention! Il fut un temps où il y avait encore un fond de valeur chrétienne chez ceux qui prenaient des enfants en charge dans le tissu social. Mais tout ça est en train de disparaître à une vitesse grand V. Alors attention, par qui seront élevés nos enfants? Qui exercera le beau service de l'hospitalité? Pas toujours facile à exercer. Mais quel enrichissement! Combien de fois, je l'entendais encore la semaine dernière, dans une autre région de France, on me disait, mais nous sommes tellement heureux d'accueillir. C'est fou ce que pour nous, l'accueil, l'hospitalité, est une occasion d'enrichissement. Nous le faisons simplement. Nous ne mettons pas les petits plats dans les grands. Nous ne nous préparerons pas 2 mois à l'avance en prenant des cachets pour dormir tellement nous avons de soucis. Non, on le fait tout simplement. Parce que l'essentiel est ailleurs. Vous savez, simplement le fait de prendre un repas chez quelqu'un d'autre, même si le repas est simple, le fait de le prendre chez quelqu'un d'autre fait qu'il est très bon. Vous savez que c'est comme ça. Vos enfants qui rechignent devant le plat à la maison, sont tout heureux de manger le même plat quand ils sont chez quelqu'un d'autre. Au point que c'est très vexant pour les mamans qui disent « Oui, quand tu es à la maison, tu ne le manges pas. » C'est pas vrai. Les bienfaits d'une saine hospitalité. Qui dans notre temps d'individualisme, d'égoïsme, d'égocentrisme, qui visitera les malades? Qui visitera les vieillards? Qui visitera les orphelins? Qui exercera un ministère de diaconat? Parce que quand je lis les Écritures, je ne peux pas faire toute une étude sur le ministère féminin, mais quand je lis les Écritures, il y a ici et là des indices extrêmement nets d'une place importante, pas exclusive, mais importante de la femme dans ce ministère. Parce qu'elle a reçu une vocation. Que cette vocation s'inscrit dans le cadre d'une maternité et que Dieu a équipé la femme d'un certain nombre de dimensions dont l'homme est très pauvre. Nous sommes, nous, très pauvres dans certains domaines. Nous sommes très pauvres en intuition. Nous sommes des êtres d'une logique parfois tellement froide et qui peut être absurde. Nous sommes des calculateurs. Nous aimons tellement l'abstrait. La femme a un rôle énorme à jouer. Dans ce monde tellement froid, tellement dur, tellement technique, ce monde au cœur de béton, toute cette dimension d'approche affective, émotionnelle, sentimentale, chaleureuse. La femme qui est le cœur du foyer, le feu qui brûle dans la cheminée, qui apporte toute une dimension que l'homme ne peut pas apporter. Qui va le faire? Des spécialistes? Qui fera précisément du foyer un lieu agréable de chaleur affective? Qui? Vous savez, je suis heureux quand je rentre à la maison. Ah, je suis heureux. La présence d'une épouse qui est heureuse dans sa vocation de femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle différence quand l'épouse n'y est pas? Pourrais-je écrire sur les demandes de remboursement sécurité sociale et autres imprimés officiels sans profession, avec une faute volontaire comme ma femme le fait? Chaque fois ma femme fait la faute volontaire sans profession, CENT avec un S au bout de profession. Et c'est un délice pour elle. Nos enfants me seront-ils reconnaissants leur vie durant de ne pas les avoir sacrifiés sur l'autel d'une soi-disant autonomie financière? Nous avons 4 enfants, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où ils nous ont déjà dit combien ils sont reconnaissants, combien ils ont apprécié d'avoir une maman qui les attendait. Oh, c'est extraordinaire. Et nous pourrions passer toute la soirée à évoquer l'impact d'une mère sur la vie des enfants. Vous savez que l'impact d'une mère est souvent beaucoup plus important que l'impact d'un père. Lisez les Écritures. Impact négatif, impact positif. La mère joue un rôle immense. Oh, le rôle du père est là, mais il est ailleurs. Mais le rôle d'influence est un rôle éminemment maternel, féminin. D'ailleurs, combien d'hommes dans des situations de détresse ou au bord de la mort prononce ce nom « maman », il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, pour cela, bien sûr, il faut envisager de commencer peut-être la vie conjugale modestement. Parce que le grand problème, avouons-le, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tellement tentés de vivre au-delà de nos moyens, de démarrer déjà dans la vie conjugale au top niveau. Hein. Donc au-dessus de ses capacités. Alors il faut travailler à deux. Et puis vous le savez, on multiplie les traites. On se place au-dessus de la tête des épées de Damoclès. On a peur de tomber malade. Je l'ai vu, j'ai vu des enfants dépérir dans mon ministère. Et quand je parlais avec les parents en disant « Mais vous vous rendez compte que votre enfant est en train de dépérir affectivement ?» Ils disent, on ne peut pas faire autrement. Si nous arrêtons de travailler, ben, on ne pourra plus rembourser
les traite pour la maison. Mais ils avaient vu trop grand. Alors je sais que peut-être je retourne certains couteaux dans la plaie, mais c'est pour moi une manière de prévenir pour ceux qui sont en route vers l'avenir. Est-ce que nous allons faire comme tout le monde? Ou est-ce que résolument, même déjà en tant que jeune disciple de Jésus-Christ, nous disons, tu seras Seigneur dans ma vie adulte. Et je veux être en conformité à la vocation, féminine ou masculine. Cela veut dire aussi que je ne veux pas envisager d'exercer, même si c'est de plus en plus courant aujourd'hui, de métier qui soit trop masculin. Parce que c'est quand même vrai qu'on ait envie ou non, il est des métiers qui, de toute évidence, sont des métiers masculins. Quand une femme agent de police se fait violer dans les couloirs du métro, on devrait réfléchir aux problèmes fondamentaux. Qu'est-ce qu'elle fait dans les métros à certaines heures de la nuit en tant qu'agent de police? Est-ce que c'est sa place? Face à des hommes qui sont prêts à utiliser tout et n'importe quoi pour parvenir à leur fin. Notre monde, en quittant Dieu, a perdu la boule. Et je crains que nous, disciples de Jésus-Christ, très souvent, nous ayons perdu la boule aussi. En tout cas, nous avons perdu le nord des Écritures. Et il nous faut absolument, dans ces domaines, revenir aux Écritures. Christ doit être aussi Seigneur à ce niveau-là, même si j'apparais rétro. D'ailleurs, il est bien plus intéressant d'apparaître rétro et d'être heureux que d'être à la mode et d'être malheureux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, ne nous habituons pas à ce qui est devenu commun, bien qu'on lise ici et là des enquêtes sérieuses dans lesquelles, malgré tout, il semble qu'un nombre élevé de femmes, au fond d'elles-mêmes, soient beaucoup plus malheureuses qu'il y paraît, parce qu'elles doivent assumer à la fois un rôle masculin et un rôle féminin. Parce que quand elles rentrent à la maison le soir, il faut commencer une deuxième journée de travail, alors qu'on est très fatigué. Et que quand certains couples commencent à lucidement faire des calculs pour voir les avantages qu'ils tirent de deux salaires par rapport aux inconvénients, y compris pécuniaires, par le fait de travailler tous les deux, eh bien quand on fait les totaux, on se rend compte que on n'est pas forcément gagnant parce qu'on travaille à deux. Parce qu'on ne gère pas le foyer de la même manière. Tenez simplement à toucher à cette question peu populaire, il se peut que pour certains d'entre vous, vous considériez que, mais cela m'est égal. Nous devons nous tenir sur le terrain des Écritures et on vérifie dans la vie active, dans la vie pratique, dans les foyers où l'on pénètre. On vérifie où est la vérité. Quand on voit les résultats, soit positifs ou négatifs, de notre obéissance ou de notre désobéissance au Seigneur dans ce domaine. Alors toujours dans cette question des implications pratiques, nous allons aller plus loin, j'aimerais introduire la suite par un témoignage de quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit de frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, qui, dans un de ses livres, écrit ceci après être devenu chrétien. J'ai travaillé dans une fabrique de chocolat à Alkmaar, ville principale d'une région hollandaise. J'avais un tel enthousiasme que j'ai gagné là beaucoup d'âmes à Christ. Je me souviens que lorsque je suis entré pour la première fois dans cette usine qui produisait des chocolats surfins, dont une grande partie était exportée aux États-Unis et en Allemagne, j'ai été absolument stupéfait non de la qualité des chocolats, hein, de l'attitude des filles qui y travaillaient. Les plaisanteries grossières et les jurons dépassaient tout ce que j'avais pu entendre dans l'armée néerlandaise en Indonésie. « Pourquoi rougis-tu tout le temps, André ?» me demanda l'une d'elles. « Je croyais que tu avais été à l'armée. » « Ce n'était rien à côté de ce qu'on entend ici, » lui répondis-je. Il y avait une employée de bureau particulièrement réservée, Corrie, qui devait plus tard devenir ma femme. Corrie me dit qu'elle me regardait témoigner et mener ma vie chrétienne dans le travail ennuyeux qu'on m'avait attribué, le triage des chocolats. Elle me dit que l'ardeur et l'enthousiasme que je mettais à ce travail, qu'un enfant de 3 ans aurait pu faire, était un merveilleux encouragement pour elle et un témoignage devant les autres. Certaines d'entre elles se renseignaient sur moi pour savoir ce qui me rendait différent. Malgré l'ambiance vulgaire de cette fabrique, Dieu y accomplit une œuvre considérable. Et un si grand nombre de ces filles en vinrent à connaître Christ que, 2 ans plus tard, je devais dire à certaines de ne pas lire leur Bible pendant les heures de travail. Elles chantaient même des cantiques en travaillant. La transformation était remarquable. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Je dois dire que pendant les premières années de mon travail à plein temps pour Dieu, je n'ai pas eu, et de loin, le même succès qu'à l'usine. Souvent, j'ai demandé au Seigneur, « Je t'en prie, renvoie-moi à la fabrique de chocolat. » Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si peu heureux en travaillant uniquement pour Dieu. Bien sûr, je ne suis pas contre le fait que les jeunes travaillent à plein temps pour le Seigneur, mais je suis contre le fait que des jeunes souhaitent devenir travailleurs à plein temps. Il ne faut vous mettre à plein temps que s'il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez pourquoi je suis à plein temps. Ce doit être, comme l'a dit Paul, la nécessité m'en est imposée, je le fais malgré moi. Là, frère André a des problèmes d'interprétation des Écritures, parce qu'il y a un contexte. Quand je travaillais à l'usine de chocolat en Hollande, je passais mes journées à en parcourir les locaux pour trouver des gens avec qui je pourrais m'entretenir afin de témoigner auprès d'eux et de prier avec eux. Puis je me suis dit, ce n'est pas honnête. L'usine me paie pour travailler et je ne travaille que pour le Seigneur. C'est pourquoi je quittais l'usine et commençais à vivre, entre guillemets, par la foi. Mais cela ne me rendait pas plus heureux. Et au fond, cela ne me rendait pas plus utile non plus. Alors bien entendu, je me dois quand même d'intervenir sur une partie du témoignage de frère André, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je pense quand même qu'à certains égards, nous devons être prudents dans notre lecture des meilleurs livres évangéliques. Soyez prudents dans la lecture de mes livres, vous vous en porterez bien. Je le dis simplement parce que dans la boîte aux questions, figurait notamment celle-ci, comment reconnaître clairement un appel au service à plein temps pour l'œuvre du Seigneur, vie professionnelle aussi, hein. Est-il indispensable d'avoir auparavant exercé une profession? Le fait d'avoir une formation et un diplôme en poche suffit-il? Pour quelqu'un qui n'aurait pas une idée précise du ministère qu'il exercera à l'issue de sa formation biblique, quel institut, école ou faculté conseilleriez-vous? Alors ce sera une manière en même temps de répondre à ce que nous venons de lire concernant ce trieur de chocolat qui a changé d'activité ensuite parce que il semblait que c'était la seule possibilité qu'il avait d'aller plus loin. J'aimerais tout d'abord répondre à la première partie, comment reconnaître clairement un appel au service à plein temps pour l'œuvre du Seigneur. Bon, faut-il dire que nous sommes tous à plein temps, hein, cela va de soi, je crois qu'on a compris qu'il y a ici une certaine manière de s'exprimer pour entendre quelqu'un qui n'est pas engagé dans un travail profane en quelque sorte, mais qui a reçu appel de Dieu pour un ministère bien précis dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je dirais tout d'abord que ce qui est fondamental, c'est une conviction personnelle profonde de la part de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un à son service, dans le sens où nous l'avons précisé, il sait le faire avec clarté. Quand Dieu appelle, il est clair. Ça ne veut pas dire que c'est clair tout de suite. Il se peut qu'une conviction prenne du temps à se mettre en place, à s'élaborer, à s'approfondir, à se préciser, mais Dieu travaille jusqu'à ce que ce soit clair, il le fait à sa manière. J'ai reçu un appel de Dieu extrêmement clair dans mon adolescence et je ne pouvais plus douter un seul instant de l'appel de Dieu, tellement cet appel était d'une netteté. Ça a été un appel qui m'a vraiment, je dirais, retourné pendant mes nuits sur mon lit. La clarté de l'intervention de Dieu pour me montrer qu'il me voulait spécialement à son service était absolument évidente. Mais il faut, et ce n'est pas rien, il importe qu'il y ait généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais qu'il y ait généralement une confirmation par l'Église. Ce que Dieu me dit, il le dit généralement aussi à d'autres. Bien sûr, il peut arriver qu'une église soit tellement malade spirituellement. Il peut même arriver qu'une mission soit tellement malade spirituellement, qu'un groupe d'église, qu'une union d'église, qu'un comité d'union d'église soit tellement malade spirituellement qu'il soit incapable de discerner un appel de Dieu. On a vu tout au long de l'histoire de l'église des hommes se lever et des femmes se lever pour entrer dans un travail missionnaire, par exemple, et qui avait été recalé à l'examen humain fait par les structures auxquelles il s'était adressé pour partir en mission. Si un Hudson Taylor avait simplement écouté un comité missionnaire, il ne serait jamais parti en mission. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mais il avait alors une certitude extrêmement forte et Dieu l'a quand même entouré d'amis qui l'ont aidé, qui ont prié avec lui et pour lui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand Dieu appelle, il le fait clairement. Mais cela nécessite conviction, confirmation et au départ, bien entendu, une véritable consécration personnelle. Je dois d'abord être fidèle dans ma vie d'église. Là où je travaille, où j'étudie, consacré au Seigneur, Jésus-Christ doit être Seigneur de ma vie. On peut discerner les directives de Dieu dans la mesure de l'offrande de nos corps. Je crois avoir traité ce thème ici. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte conforme à ce que la raison demande. Et laissez-vous en permanence métamorphoser par le renouvellement de votre intelligence afin que vous soyez capable de discerner, sous-entendu sans l'ombre d'un doute, la volonté de Dieu, laquelle est bonne, agréable et parfaite. C'est de l'offrande de ma personne dans ma vie quotidienne, à la maison, sur les bancs du collège, du lycée ou de l'université, et à l'église, et dans la rue, dans mon voisinage, sur le lieu de mes loisirs, c'est dans la mesure de ma consécration aussi que je vais pouvoir saisir l'appel que Dieu veut m'adresser quant à l'exercice d'un ministère particulier. Est-il indispensable d'avoir auparavant exercé une profession ? Dans ce domaine, rien n'est indispensable. Dieu est souverain. Il est généralement préférable. Surtout aujourd'hui, nous vivons un temps et des circonstances qui rendent peut-être plus sage, en tout cas une préparation vers l'exercice d'une profession qui permet aussi un certain mûrissement. Je bénis Dieu, par exemple, pour ma part, de la manière dont il m'a obligé, en tout cas pendant 2 ans de ma vie, à l'âge de 16-17 ans. Et mon état était tel que je n'avais absolument pas l'autorisation de reprendre mes études tout de suite. Et Dieu a ouvert une porte dans sa souveraineté que je suis loin de regretter, puisque pendant 2 années complètes, avec une dimension de communication, de relation avec les enseignants, avec un tas de monde, qui m'a énormément appris. Et c'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, m'a placé dans une situation de travail avec un patron d'ailleurs qui avait un très mauvais caractère. On parlera des patrons mauvais caractère d'ici dimanche puisque la Bible en parle. Et le maire de la ville, qui était mon grand patron, avait un très mauvais caractère. Et dès le vendredi soir, toute l'équipe de la mairie tremblait à l'idée de la réunion de travail du samedi matin où il fallait faire le bilan et envisager le programme la semaine suivante, parce que généralement, à un moment donné ou à un autre, c'était l'explosion, la fureur et tout le reste. Bref. Mais enfin, il avait de beaux côtés aussi, ce brave monsieur, ne lui jetons pas trop la pierre. Donc, préférable, mais les voies de Dieu sont différentes pour chacun. Les voies de Dieu sont différentes pour chacun. Et il faut simplement être prêt à passer par les chemins de son choix. Généralement, beaucoup de jeunes qui se forment pour le service de Dieu aujourd'hui ont une moyenne d'âge assez élevée, surtout dans les instituts, beaucoup moins dans les facultés d'ailleurs. Le fait d'avoir une formation et un diplôme en poche suffit-il? Pas du tout. Ça, c'est comme si on vous disait qu'avoir un permis de conduire suffit pour savoir conduire. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes conducteurs, mais nous sommes tous passés par là et il faut du temps pour véritablement maîtriser la conduite dans toutes sortes de circonstances très variées. On apprend avec le temps. Donc je crois que d'autres éléments sont absolument indispensables. L'expérience de vie d'église locale. Beaucoup trop de jeunes qui se forment actuellement dans les lieux de formation ont très peu d'expérience d'église locale. Et ça, c'est très problématique. On doit d'abord faire ses preuves dans l'église locale. Importance, bien sûr, de stage aussi, pas toujours assez mise en valeur, suffisamment long. Mieux vaut faire ses erreurs sous l'autorité d'un aîné qui nous aidera à nous corriger que de faire des fautes sans avoir quelqu'un pour nous rectifier et sans que quelqu'un d'autre puisse endosser les problèmes et nous aider là où nous avons fait éventuellement des dégâts. Pour quelqu'un qui n'aurait pas une idée précise du ministère qu'il exercera à l'issue de sa formation biblique, quels instituts, écoles ou facultés conseilleriez-vous? Je ne vais pas ce soir vous donner le nom d'établissement qui forme. Je ne veux pas le faire en public. Par contre, je vais simplement et rapidement insister sur les qualités qu'à mon avis, et il me semble même par rapport aux Écritures, devrait avoir un lieu de formation au service de Dieu, les qualités fondamentales. Et je dirais simplement, avant de les énoncer, que les questions de formation au service de Dieu, la question des instituts et des facultés à l'heure actuelle, est une grande problématique. Je ne vous cache pas que sur un plan assez général, je suis très insatisfait par les conceptions qui prévalent et les choses qui se font dans la plupart des lieux de formation d'Europe et même d'outre-Atlantique dans certains coins que je fréquente et où je vais aller encore prochainement. Et c'est ce qui m'amène à souligner 5 remarques concernant les qualités que devrait avoir ce lieu de formation. Tout d'abord, un lieu où l'on attache beaucoup d'importance à la formation de la personne tout entière. Trop de lieux aujourd'hui sont beaucoup plus attachés à la formation
académique, c'est-à-dire qu'on remplit des cerveaux, on forme des grosses têtes, et on n'est pas préoccupé par la totalité de la personne. Quand Dieu forme, et quand Dieu utilise des formateurs, c'est pour former la totalité de la personne. Sinon, on forme des monstres. Des grosses têtes et des petits cœurs, hein, comme d'autres ont des grands pieds et un tout petit cerveau. Voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement important. Aujourd'hui, prévalent trop souvent les dimensions de formation purement académique, au détriment d'autres valeurs, notamment au niveau du caractère, de la discipline. Il est des éléments qui vont occuper une place extrêmement importante dans le ministère et qui doivent absolument s'acquérir avant d'être dans le ministère. Parce qu'une fois qu'on sera pris dans la tâche, on va traîner souvent ses défauts pendant toute sa vie avec soi. On n'aura plus le temps et on aura souvent un manque d'éléments autour de nous pour nous aider à acquérir ces qualités. Deuxièmement, j'attends des lieux de formation qu'ils soient des lieux où l'on privilégie le développement d'une piété personnelle fondée sur les Écritures. Piété personnelle. Je bénis Dieu de ce que lorsque j'ai fait mes études, la priorité très forte était donnée à la parole de Dieu. Et certainement que cela a été pour moi un élément absolument fondamental. Combien on insistait sur la nécessité que nous ayons une piété personnelle régulière, que nous cultivions une relation profonde, régulière avec Dieu sur la base de sa parole. C'était la priorité des priorités. Et je me souviens même être allé un jour voir le responsable d'un secteur d'enseignement pour lui dire, écoutez, moi, je dois dire que je préférerais ne pas toucher à ce secteur d'activité et d'études, parce que je me rends compte, en ayant fait 15 jours dans ce secteur, qu'il prend un temps énorme et que je suis en train de perdre dans le domaine de ma piété personnelle et de mon étude de la parole de Dieu. Et ceci a été accepté. Ce qui ne serait certainement pas le cas trop souvent aujourd'hui. Troisièmement, j'attends du lieu de formation qu'il soit un lieu où l'on attache beaucoup d'importance à une formation équilibrée, c'est-à-dire en partie théorique, on en a besoin, et en partie pratique. Que la pratique soit étroitement associée à la théorie. C'est très important. Quatrièmement, j'attends de ces lieux qu'ils soient des lieux où l'on annonce tout le conseil de Dieu sans avoir à tenir compte de l'origine ecclésiastique des étudiants. Parce qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de lieux de formation, la diversité d'origine ecclésiastique des étudiants est telle et la diversité d'origine ecclésiastique des professeurs est telle qu'il est des sujets qu'on n'ose plus aborder de peur de s'attirer des foudres, des réserves et toutes sortes d'autres problèmes de la part de ceux qui seront malheureux de nos affirmations bibliques. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est tout le problème de ce qu'on appelle les lieux de formation interdénominationnels. Lorsqu'ils couvrent trop de milieux, on n'ose plus dire certaines choses. Il faut que l'enseignant ait la liberté d'annoncer tout le conseil de Dieu, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y aura des pédobaptistes qui seront là, il parlera du baptême d'adultes. C'est tout. Ou on se tient sur les Écritures, ou bien alors, on peut raconter n'importe quoi. Cinquièmement, j'attends de ces lieux de formation qu'ils soient des lieux dans lesquels on privilégie l'Église locale, où elle est une importance capitale, où on vérifie que les jeunes aient un engagement dans leur Église locale, qu'ils soient accrédités par leur Église locale, dans toute la mesure du possible. Et que l'on ait cette pensée très forte, c'est que l'école, le lieu de formation, est au service de l'Église, et ce n'est jamais l'Église qui est au service de l'école. Parce que la plupart des lieux de formation ont complètement tordu cette équation. C'est finalement l'Église qui s'est mise au service de l'école, alors que c'est l'Église qui doit contrôler l'école. Et qu'il doit y avoir la culture d'une relation très étroite entre l'Église et l'école. Une concertation continuelle. Il importe que ceci soit respecté parce que c'est une règle biblique. Toutes les œuvres évangéliques de formation doivent être des bras en action de l'Église locale. Alors je ne peux pas, parce que ce n'est pas non plus notre thème, développer à fond chacune de ces idées, de ces pensées, de ces grands axes, mais je tenais simplement à vous les donner comme le point de repère qui me semble extrêmement important, et croyez-moi, j'ai pu, au fil des années, étant invité dans pas mal de lieux d'enseignement, parler, m'entretenir avec professeurs, directeurs, etc., et aussi avec les étudiants, et voir les dégâts là où ces grands axes bibliques n'étaient pas respectés. Ceci dit, allons plus tard, le temps passe terriblement vite, implication pratique, avons-nous dit, importance de glorifier Christ par la qualité de notre travail. Et j'aimerais m'entretenir avec vous pendant un moment sur cette question de la qualité de notre travail. Dans un ouvrage absolument remarquable, intitulé « Une vie chrétienne enrichie », un homme de Dieu qui a été à la base d'une des grandes missions, l'Alliance chrétienne missionnaire mondiale, Simpson, écrit ceci, « Il nous faut un travail plus grand. » Non pas un champ d'action plus vaste. Non, ce dont nous avons besoin, c'est d'un travail de meilleure qualité. Nous devons finir le travail inachevé. Nous devons faire les choses que nous avions pensé, planifié ou parlé de faire et que nous sommes fort bien capables de faire. Nous devons faire le travail qui peut être fait durant les intervalles et les intermèdes de la vie, le travail qui peut être fait en cours de route et dans le feu de l'action, aussi bien entre les périodes que dans les périodes de service particulier ou d'affectation à une tâche particulière. Nous devons accomplir un travail qui soit orienté vers le haut, qui soit fait plus entièrement pour Dieu, qui soit plus totalement consacré à sa gloire, un travail qui soit l'objet de son approbation, que cela plaise ou non aux hommes. Je suis ambassadeur de Dieu dans mon travail. Je représente Dieu dans mon travail. Donc j'ai à cœur, parce que je suis le représentant de Dieu dans mon travail, parce que je suis l'ambassadeur de Dieu dans mon travail, que mon travail soit bien fait, qu'il soit soigneux, qu'il soit consciencieux, qu'il soit honnête. Nous avons cité dès le premier soir, Proverbe 18, verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et à une époque où la conscience professionnelle est en perte de vitesse à une allure TGV, combien nous, quelle que soit notre fonction, où nous sommes, nous devons de plus en plus trancher par notre souci de bien travailler. C'est Martin Luther qui a fortement souligné ceci quand il écrivait par exemple « La servante qui balaye la cuisine » fait la volonté de Dieu tout autant que le moine qui prie parce qu'il chante un cantique chrétien en balayant, mais parce que Dieu aime les planchers propres. Ce n'est pas en plaçant des petites croix sur les chaussures que le cordonnier chrétien fait son devoir chrétien, mais en faisant de bonnes chaussures parce que Dieu aime qu'un métier soit bien exercé. C'est pour cela que nous avons lu Genèse 39. Joseph est un exemple extraordinaire d'un jeune homme de Dieu qui se trouve placé dans une situation extrêmement difficile. Alors, s'il y avait quelqu'un qui était dans un milieu difficile, hostile, qui était là à cause d'injustices terribles, qui aurait pu s'en plaindre, se plaindre des conditions de vie, etc., c'était bien Joseph. Et c'est quand même intéressant de voir comment Dieu a inspiré et béni le travail de Joseph qui s'appuyait sur lui. D'ailleurs, faut-il souligner au passage dans Genèse 39 que s'il est dit à 4 reprises que Dieu était avec Joseph dans ces 2 phases de sa vie professionnelle, qui ont été toutes 2 extrêmement délicates, cela venait de ce qu'à 4 reprises aussi, il nous est dit dans Genèse 39 que Joseph n'était pas avec quelqu'un d'autre, ou très exactement dans le lit de quelqu'un d'autre. Vous avez 4 fois la mention « l'Éternel fut avec lui, l'Éternel était avec lui » et 4 fois vous avez ces expressions « avec moi, avec elle, avec moi, avec moi ». Hein? Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Il refusa. Plus loin, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et puis ensuite, elle raconte à son mari, n'est-ce pas, et puis même à tout un tas de gens, « voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous, cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi ». 4 fois, Dieu était avec Joseph dans l'exercice de sa vie professionnelle tellement difficile, parce que Joseph honorait son Seigneur, par exemple dans le domaine de la sexualité. Le Seigneur n'aurait pas pu être avec Joseph si Joseph avait été dans le lit de l'adultère. Donc si nous voulons même que dans des situations extrêmement difficiles, la bénédiction de Dieu soit sur notre activité, il faut aussi que nous en remplissions les conditions morales, les conditions spirituelles. Il faut que le Seigneur soit chef de notre sexualité, qu'il soit Seigneur du monde de nos pensées, du travail de notre imagination. Et tout cela entre dans ce contexte d'intégrité, d'honnêteté. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le concept du poids juste est très présent. Deutéronome 25, versets 13 à 16. Deutéronome 25, versets 13 à 16. Pour ne prendre qu'un texte, tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'épha, un grand et un petit, mesure pour les céréales. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et il y a quantité d'autres textes qui traitent du même sujet. Donner la quantité qu'il faut pour un juste prix. Donner la qualité convenable pour le prix payé et conformément à la publicité faite. Je sais qu'on touche là une quantité de domaines qui sont bafoués tous les jours. Mais où nous pouvons, sur un plan personnel, avoir une responsabilité. Parce que nous sommes appelés à être celle de la terre. Donner la qualité convenable pour le prix payé conformément à la publicité faite. On peut parler de toute la publicité mensongère d'aujourd'hui. Je pense à un livre intitulé « La passion de l'excellence » dans lequel l'auteur fait allusion à un grand distributeur d'ustensiles de cuisine qui fait presque toutes ses ventes sur catalogue et engageant les meilleurs photographes du monde. Ce distributeur, que je ne citerai pas, je ne ferai pas de publicité, consacre d'exceptionnels efforts à la confection du catalogue. En 1983, la couverture de l'édition de Noël devait montrer un morceau de tarte dans un nouveau plat importé par ce distributeur. Il fallut une journée entière et des dizaines de milliers de dollars pour prendre la photo. En fin d'après-midi, alors qu'on démantelait le décor, le fondateur de l'entreprise arriva sur les lieux. Il empoigna une fourchette, goûta la tarte qui avait été photographiée. Il ne la trouva pas vraiment bonne et sans une seconde d'hésitation, il jeta la photo. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de laisser figurer sur la couverture d'un catalogue de ce grand distributeur un morceau de tarte qui n'avait pas bon goût. Il aurait dû venir en Alsace, il n'aurait pas eu ce problème parce que j'ai mangé depuis mon arrivée de ces tartes absolument succulentes. Je n'en dirai pas plus. Au-delà de ce domaine particulier, importance de l'honnêteté dans le travail sur un plan plus général. Pensez aux percepteurs hachés qui réparent et qui demandent pardon quand ils rencontrent Jésus-Christ, que Jésus-Christ entre et dans sa maison et dans sa vie. Et je pense ici à une série de conférences que je donnais dans une église du Québec il y a quelques années, une église que je vais visiter là dans 3 semaines à nouveau. Et on m'avait demandé de traiter du thème du réveil. Et nous avons vécu à la fin de cette semaine d'enseignement un moment assez émouvant où pendant 3 heures, des amis de cette église qui avaient vécu toute la semaine, à peu près 300 personnes, se levaient les uns après les autres à leur place pour dire, parfois même confesser, des fautes commises, demander la prière de l'église. C'était très très touchant. Et je vois encore cet homme qui était sur la droite et qui s'est levé, qui s'est présenté comme ancien dans cette église et qui a dit, voilà, je suis reconnaissant que notre frère ait évoqué la question des déclarations de revenus et du paiement des impôts. Parce que je me bats depuis une année avec le Seigneur, parce que j'ai fait une déclaration de revenus qui était falsifiée, qui ne disait pas la vérité il y a une année. Et j'ai perdu la paix. Et maintenant, je demande pardon à Dieu. Et je m'engage devant Dieu maintenant à rectifier la chose. J'ai trouvé ce témoignage très courageux, très beau. Mais je pense que nous sommes tous concernés par des questions de cet ordre. Je pense à la qualité de travail de Daniel. Hein. Vous connaissez ce texte de Daniel octogénaire dans Daniel 6, hein, quand il nous est dit que les chefs et les satrapes, verset 4, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais ça veut dire qu'il avait dans l'exercice de son métier une attitude d'honnêteté, d'intégrité, qui était quelque chose de particulièrement étonnant de la part d'un homme occupant de telles fonctions. Si on adapte à notre temps, vous imaginez un petit peu à quoi nous pouvons penser quand nous évoquons un poste comme celui-ci transposé dans notre temps. Cette importance chez Daniel de l'équilibre entre la vie de prière, par exemple, et la qualité de son travail. Un homme qui avait une vie de prière régulière, disciplinée, très riche, et qui avait une qualité de travail extraordinaire. Cet équilibre de vie, tellement important. La prière à sa place, le travail à sa place. Qualité de prière, qualité de travail. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte et je souligne que l'ennemi ne doit pas avoir de prise sur nous. Nous pourrions évoquer de très près la parabole que nous avons lue de Luc 16, n'est-ce pas ? La fidélité commence dans les petites choses et l'infidélité aussi commence dans les petites choses. Quelqu'un écrit dans un livre remarquable, « La plupart du temps, la tentation est plutôt subtile qu'évidente. La tentation d'enfreindre l'honnêteté ou l'éthique s'insinue en douceur dans notre vie. Elle nous surprend parce qu'elle vient d'une source totalement inattendue, comme un ami ou un collègue très estimé. Elle arrive sous couvert de l'urgence ou d'une pratique courante. Elle nous attaque rarement de front, mais se développe généralement à travers une série de petits compromis. Elle peut se déguiser en un devoir ou geste de loyauté. Dans les affaires au travail, les normes de nos collègues tendent à devenir les nôtres. Nous participons à tant de discussions sur les pratiques courantes que nous commençons à y croire, même si nous savons qu'elles peuvent être remises en question. Pourquoi faire des manières sur des bagatelles qui n'ont aucune importance? Après tout, cela passera sur le compte des profits et pertes de l'entreprise. Et là, nous touchons, j'en suis absolument persuadé, à une multitude de problèmes qui bloquent nos vies spirituelles personnelles. Parce que dans l'entreprise, on pratique telle chose, nous pensons que, après tout, ce n'est pas grave et que nous pouvons aussi le faire. J'ai été très touché par ce texte d'un homme de Dieu des siècles passés, du XVIIe siècle, qui écrit ceci: « Les grands péchés effrayent plus vite l'âme que les petits. Ils la mettent sur ses gardes et la poussent à la repentance plus vite que les petits péchés se glissent subtilement. Breptissement dans l'âme, s'y développent, y accomplissent un travail secret et imperceptible jusqu'au moment où, devenus forts, ils sautent sur elle et l'égorgent. » Alors, une des questions qui a été posée, tout à fait à part, dans la boîte, c'est: et le travail au noir? Alors, je suis parfaitement d'accord avec chacun d'entre vous qu'il existe dans nos législations des excès qui, je dirais, nous poussent à la tentation du travail au noir. C'est vrai qu'au niveau de taxes, d'impositions, etc., il y a des situations qui sont lourdes à vivre. Mais je ne vois pas où, dans les Écritures, les injustices des systèmes humains nous autorisent à être injustes à notre tour. Je n'ai pas encore réussi à discerner ça dans les Écritures. Un jour, un ancien de notre Église, qui était chef d'entreprise, où j'étais responsable pendant 10 ans, m'a dit « Ma tentation, c'est au niveau de ma déclaration de tricher, parce que je sais, en tant qu'entreprise, que de toute manière, on me considère comme tricheur et qu'on ajoute une marge précisément parce qu'on me considère comme tricheur. » Et cette question m'a été posée il y a quelques semaines à peine à nouveau. Et j'ai dit: écoutez, le grand problème, c'est que si vous commencez à tenir ce raisonnement qui consiste à dire: puisque l'État triche avec moi en prélevant injustement parce qu'il me considère comme tricheur et que je ne le suis pas, je peux me faire justice. Le problème, c'est que quand vous commencez sur ce chemin-là, vous ne savez plus où vous arrêter. Quand on met le doigt dans ce type d'engrenage, mes amis, finalement, c'est la main et c'est le corps tout entier qui y passe tôt ou tard. Je suis absolument convaincu, pour l'avoir vécu moi-même, parce que ne croyez pas que nous soyons à l'abri, hein, les demandes de paiement sans avoir à produire de factures, j'en ai aussi reçu quelques-unes dans ma vie. Eh bien, je crois que dans ces domaines, nous devons nous tenir sur le terrain de l'honnêteté, de l'intégrité, même si nous sommes perdants. Nous ne sommes jamais perdants avec Dieu. Et Dieu sait honorer ce qu'il honore. Je sais que ça peut nous coûter cher. Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne serait facile. Elle n'était pas plus facile à d'autres époques qu'aujourd'hui. Les mêmes défis existaient du temps de Daniel et à d'autres époques. Dès qu'un pays, qu'une société évacue la personne de Dieu, elle retrouve exactement les mêmes problèmes. Nous avons aujourd'hui les mêmes problèmes que la société israélienne du temps de Jérémie. du temps du prophète Osée. On faisait la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Et vous ne voyez pas un Jérémie, un Osée ou d'autres prophètes dire, eh bien écoutez, puisqu'on vit dans ces temps-là, puisque l'autorité triche, puisque le roi Joachim fait un tas de choses et qu'il n'est pas conséquent avec les ouvriers qu'il l'emploie dans ses palais, vous pouvez tricher aussi. Jamais. Le message de Dieu reste immuable, parce que Dieu sait que dès que nous mettons le petit doigt dans l'engrenage de ce type de malhonnêteté, c'est finalement la main puis le corps tout entier qui passe. Tenons-nous sur le terrain de l'intégrité, honorons Dieu, et Dieu saura aussi nous honorer. Une petite chose est une petite chose, disait Hudson Taylor, mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. J'aimerais simplement m'arrêter là, il est tard, mais il y a de quoi, je crois, réfléchir. Vous avez remarqué que nous sommes entrés dans les choses très très concrètes. Après ces bases de généralité, c'est aussi le but de cette série d'études. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'es pas une girouette. Nous te bénissons parce que ta parole n'est pas un tissu de contradiction. Elle n'est pas non plus caduque, c'est une parole éternelle. Elle est une semence qui dure éternellement. Merci donc parce que nous sommes sur un terrain non marécageux, nous sommes sur un terrain fiable, solide, ferme, immuable. Tu es le Dieu qui ne change pas dans ton caractère. Tu restes saint, tu restes amour, tu restes juste. Tu restes conséquent avec toi-même, avec ton caractère, avec ta parole, avec tes promesses, avec tes menaces. Seigneur, donne-nous de nous en souvenir dans l'exercice de nos fonctions. Merci de travailler en nous pour que nous ayons vraiment à cœur de faire de toi le Seigneur de nos vies dans l'exercice de notre profession. Que ce soit dans notre vocation féminine, que ce soit dans notre travail professionnel, là où tu nous as placés, aide-nous à être intègres, à être droits, à ne pas tricher, même sur les détails. Seigneur, guide-nous dans une attitude d'honnêteté qui te glorifie vraiment. Tu es prêt à nous guider, tu es prêt à nous accompagner. Et c'est vrai qu'il y a des souffrances sur ce chemin-là. Mais Seigneur aussi, que de bénédictions. Cette certitude de ta présence, de ton accompagnement, ta proximité dans ces moments difficiles où nous choisissons de rester fidèles, est tellement délicieuse. Et nos souffrances ne font pas le poids à côté de ta présence dans nos vies à chacun. Merci, parce que tu veux nous équiper les uns les autres, tu veux nous aider à rectifier là où il faut rectifier, à changer d'attitude, à reconsidérer nos voies, nos vies, pour avoir à cœur de nous aligner sur toi. Et puis nous te prions aussi de cette question de la vocation à un service particulier, à temps plein, une mise à part pour un ministère, à nos lieux de formation, Seigneur, là aussi, guide, il y a d'immenses besoins. Seigneur, fais qu'une nouvelle génération se lève de jeunes qui est à cœur de bien se former, sous ton regard, pour semer l'Évangile, jusqu'à ce qu'il te plaise d'enlever ton Église, de revenir, de mettre fin à tout ce qui se passe dans ce monde. Seigneur, appelle de manière claire dans ce beau service, difficile, exigeant, mais si riche lui aussi. Merci de nous accompagner ce soir dans nos demeures à chacun, de nous accorder le repos dont nous avons besoin, de nous préparer pour cette journée de demain, pour la soirée aussi de demain. Permet que durant cette série d'études, nous accomplissions ce que tu avais prévu pour cet enseignement. Nous te bénissons de tout notre cœur, dans le nom du Seigneur Jésus.